Radio Classique, Grand Témoin.
Il a été international congolais footballeur professionnel dans FC Serein, FC Paris, RSC Anderlecht, l'Olympique Lyonnais et aussi FC Bastia. Aujourd'hui député national pour le compte UMLC, le jeune Kabongongo est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Le jeune Kabongo, soyez le bienvenu.
Merci.
Comment allez-vous?
Pas plus que
vous. Vous avez fait rêver les Congolais au sein de l'équipe nationale des Léopards à une certaine époque. Vous avez été meilleur buteur du championnat français de Ligue 2 en 1986 avec 29 buts. Vous avez aussi contribué à remonter l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. On parlera de tout ça au cours de cette émission. Le 3 novembre 1960, vous naissez à Kinshasa. Parlez-nous de votre enfance.
Ben écoutez, merci d'abord. Je crois que quand on doit parler de soi-même, c'est pas évident.
Et
mais je vais essayer. C'est vrai que je suis né d'une famille de 4 personnes, une fille, 3 garçons. Donc je suis jumeau. Mon frère jumeau est décédé il y a quelques années, pratiquement en 1994. Et puis donc il y a mon frère cadet qui vit en Irlande. Pour résumer, je dirais que j'avais connu une enfance très mouvementée, dans ce sens que j'étais le turbulent de la famille. Et je sais que ce n'était pas facile avec...
De vous gérer, en fait.
De me gérer avec mes parents, c'est passé par quelque chose que je ne regrette pas, puisque ça annonçait déjà le courage que j'avais et la volonté de faire quelque chose, et c'est ce qui m'a emmené par après à faire une carrière pas mal sur le plan national et international.
Racontez-nous une petite anecdote par rapport à votre enfance.
Écoutez, c'est comme tous les enfants de notre génération. Une fois, quand il y avait la pluie, on en profitait, c'est-à-dire qu'on sortait se baigner sous la pluie. Pendant que nos parents pensaient que nous étions devant la parcelle, nous, on en profitait pour aller se baigner à la rivière. Donc, c'est des choses qui arrivaient régulièrement. Et quand je rentrais, c'était la bagarre à la maison avec ma mère, comme tous les autres enfants.
Vous avez quand même, lorsqu'on vous entend parler, on sent un certain niveau, jeune Kabongo. Quelles études primaires et secondaires avez-vous faites et où les avez-vous faites?
Ben, merci. Je pense que j'avais fait mes études primaires à l'école catholique Saint-Gabriel. Et puis par après, j'ai été à CO Montpellier pour obtenir mon diplôme à l'Institut d'éducation physique, situé sur croisement Kassavubré-Kabambare. Donc c'est pour dire que je suis éducateur physique. Et puis après, j'ai été à l'université, mais malheureusement ou heureusement pour moi, il fallait bien prendre une décision entre le sport
et
les études. Bon ben écoute, j'avais fait mon choix pour embrasser la carrière professionnelle, que je ne regrette pas. Et s'il faut refaire mon chemin, ben je le referai de la même sorte, voilà.
Dans votre enfance, c'était les baignades, dans les rivières, sous la pluie, et le football, quelle place avait-il dans votre jeunesse?
Non, ben, le football avait une place importante, puisque toujours les anecdotes, comme vous le dites, avec ma mère, c'était la bagarre, parce que ma mère ne voulait pas que j'aille jouer au football. Ce qui fait que ma mère, très souvent, cela arrivait fréquemment, me privait, si c'était pas la nourriture, tous mes habits, elle enfermait dans sa chambre pour que j'aille pas jouer au football, mais je m'arrangeais toujours avec les voisins pour prendre une culotte et sortir aller jouer au ballon. Et quand j'avais eu la chance de faire venir mes parents en Europe, la question je l'avais posée aussi une fois à ma mère, je dis, tiens maman, tu te rappelles ce que tu faisais, tu voulais pas que j'aille jouer au football? Et tu vois maintenant que si tu es arrivé en Europe,
c'est grâce au football.
C'est grâce au football, et sa réponse a été claire, c'est pas de ma faute, je suis pas le bon Dieu pour savoir. Mais c'était une réaction qui était normale pour me protéger, et c'est là que je voulais bien mettre un accent, parce que ce n'était pas de sa faute, pour la simple raison qu'à l'époque, pour le parent, c'était pas évident de laisser les enfants faire la pratique de sport, pour ne pas dire le football, et la musique.
C'était pour des voyous.
Ouais, exact, donc ces deux secteurs s'étaient réservés plus les voyous, et c'est ce qui fait que si pas mes parents, mais je pense que tous nos parents, ils avaient cette réaction d'interdire les enfants de faire la pratique de sport et de jouer la musique. Ce qui fait que les gens de notre génération le faisaient en catimini. Et il fallait donc avoir de la volonté, y croire pour aller jusqu'au bout, donc ce qui a été mon cas.
Mais votre père vous amenait quand même au stade, hein, enfant déjà.
Oui, c'était différent. Mon père, par contre, il était très cool. Bon, c'est normal, le papa n'est pas là, il est au boulot, et quand il rentre, les enfants sont déjà accouchés et tout. Mais disons que papa était beaucoup plus large par rapport à ma mère, ce qui fait que chaque week-end, notre papa nous emmenait voir le match au Stade Père Raphaël, ce qui fait que j'avais eu la chance de voir Pelé à l'époque avec notre équipe nationale.
Le roi Pelé. Ça a marqué quand même.
Ça a marqué, bien sûr, et surtout, je crois qu'avec le temps, avec le recul, je tiens à saluer la mémoire de mon père. Je dirais grâce à lui que j'avais réussi à faire une très bonne carrière et surtout avoir le goût de sport, parce que mon père adorait le sport.
Radio Classique, grand témoin.
Ancien international congolais et footballeur professionnel dans FC Servin, RC Paris, RSC Anderlecht, l'Olympique Lyonnais et au SC Bastia, aujourd'hui député national pour le compte du MLC, Eugène Kabongo Ngoy est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Eugène Kabongo, à quel moment avez-vous décidé de vous lancer sérieusement dans la carrière footballistique?
Non, mais je pense que les choses s'étaient décidées à l'âge de... Je dirais 15 saisons, j'avais déjà une idée. Et en ce moment-là, j'ai évolué à l'EMBA, au terrain de Messé. Et puis par après, donc, j'ai joué avec l'équipe de Dampetit Mokanda à Matete pour atterrir avec le FC Onatra. À l'époque, c'était Palinx qui était le PDG. Et puis après, Football Club Calamou, Madolisano pour terminer sur le plan national avec l'Athletic Club Matongé. Je pense que là, l'idée, comme je dis, j'avais déjà une idée d'embrasser cette carrière, mais ce que je tiens à souligner, c'est-à-dire que à l'époque, nous avions bénéficié d'un encadrement du côté de l'éducation, parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, pour qu'on parle de Eugène Kabongo et de sa carrière, il y a d'abord l'éducation, puisqu'à l'époque, l'éducation qu'on avait reçu avec la génération d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Je pense que ça avait beaucoup contribué puisque ça nous permettrait de faire le deux à la fois, le sport et les études, ce qu'on appelle sport-études aujourd'hui. Et je pense que ça a été un apport important pour nous autres et même pour la suite de ma carrière parce que pour évoluer au niveau professionnel, c'est vrai, il y a deux jambes, mais je pense qu'il faudrait avoir un minimum sur le plan intellectuel.
Dans la tête.
Exact, puisque il ne faudrait pas oublier, quand tu joues au football, il y a ce fraction seconde, le temps de réfléchir et exécuter, ça demande un minimum, comme je dis. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait cet encadrement au niveau de l'éducation, et il y avait aussi les infrastructures à l'époque que nous ne retrouvons pas aujourd'hui. C'était une grande contribution pour la suite de notre carrière que nous ne retrouvons pas aujourd'hui. Enfin,
dans quelles conditions s'est effectué votre transfert au RFC Servin en France? Avant de répondre à cette question, je vous invite à suivre cet extrait de l'international Tchulola Kinyama, ancien sociétaire de Saint-Luc de Kananga, du tout-puissant Mazimbé, Ajax Cape Town en Afrique du Sud, et aujourd'hui Lokeren en Belgique. Il nous parle de son transfert de l'Afrique du Sud en Belgique au micro de Christian Moulumba.
Et là, quand on a encore les autres fois, ils ont encore le témoignage. La Banzi, la 2005, quand on a joué à porter un match à Burkina Faso. Mon père était venu ici à Kinshasa pour me voir. Allez là, Kanaï, ma café, je suis dans la chambre, je suis dans la chambre, moi, là, je suis dans la chambre. Tout le monde est tout à la porte. Papa, je suis dans le contrat à 4 ans, mais 2007, poto, moi, là, il faut quoi, là. La caisse, je suis dit à Zongi Kananga. 2006, bah, Zongi a la Coupe d'Afrique, et pas être le roi. Ma bête, et le côté. Ma Zongi, 2007, championnat affiché de Sili, na Yao, na Kino Sonal. Dans mon bateau, la Nenga, ou à Ozon, la félicité, il faut tourner au pote. Maintenant, dans son contrat, il y a déjà ce qui est bon qu'un abango, et tout bon là qu'il ne dit jamais. Le temps qu'on a commis d'année, je n'ai qu'à une année. Vous savez, une année, c'est facile, tout cas ce contrat. Le bien, il pourrait y avoir sa félicité d'aboui. Il a dit non, la tête à la trois, c'est quoi sinon? Parce que chance, n'a gagné, n'a qu'un contrat dans l'âge. Le ministre content d'appeler si Bantou en Belgique, mais on peut battre avec avocat à Bangui et à FIFA. Avocat, sinon, président Yohana a un droit à terre quand je jouais pas ce contrat il y a un an. Ce soir, Boy, qu'il devrait jouer, tu reconnais la FIFA, tu fais faire le candidat, joueur de joueur libre. De Yango, Bayoukana qui va libérer facilement.
C'était l'international Tchulola Kinyama qui nous parlait des difficultés, des tractations qui se sont passées autour de son transfert de l'Ajax Cape Town d'Afrique du Sud à Lokeren en Belgique. Ce n'était pas du tout facile. Le club avait refusaient, mais après ça s'est arrangé. Jeune Kabongongo, comment s'est passé votre transfert à vous de Matongé pour arriver en France?
Non, ça me fait rire parce que je suivis mon jeune frère. Si à son niveau il dit que c'était difficile, imaginez-vous à notre époque c'était encore plus compliqué. Que ça, puisque je tiens à préciser qu'à l'époque il y avait une réglementation qui interdisait le joueur de sortir avant l'âge de 35 ans.
Ah bon?
Ce qui fait que le Moutoubili qui est à l'enfant de nous autres, chacun était parti de sa façon en catimini, parce qu'il y avait interdiction formelle. Et en ce qui me concerne, disons que moi j'avais eu pas mal de chance, parce que quand je parle de cette chance, à l'époque, j'évoluais avec le football club Matongé, c'est vrai que j'avais déjà une idée de partir en Europe, ça c'est sûr et certain. C'est ce qui fait que, à l'époque, ça ne m'intéressait pas de jouer dans la Ligue avec le Dragon. Parce que notre génération, à l'époque, pour se faire un nom, il fallait passer par ces trois grands clubs. Mais ce n'était pas le cas pour moi, ça ne m'intéressait pas, parce que j'avais déjà une vision. Je pensais à embrasser la carrière professionnelle. Et si j'évoluais dans ces trois clubs, ça allait me compliquer pour sortir. À l'époque, on avait déjà une renommée sur le plan national, puisque j'avais démarré aussi avec l'équipe nationale dans les années 80, au jeu de Luanda. Lors d'une rencontre Matongé Club au stade Tata Raphaël, je ne sais plus quel match, Monsieur Jean Fellas, qui avait entraîné notre équipe nationale, était de passage à l'époque à Kinshasa, et il avait eu la chance d'assister à cette rencontre, il m'avait vu jouer. Ce qui fait que quand j'étais arrivé en Europe, lui, il était entraîneur de Serra.
Il m'a facilité les choses.
Connaissant déjà mes qualités footballistiques, ça a été beaucoup plus facile, et c'est comme ça que j'avais démarré avec le football club Serra. Mais crois-moi que ce n'était pas facile, hein. C'était très très compliqué.
De 83 à 95, vous jouez au total 27 matchs avec le RFC Serra en France et vous marquez 20 buts. Pourquoi, à votre avis, les footballeurs congolais ont-ils du mal à s'adapter en Europe?
Écoutez, ce n'est pas seulement le problème de footballeurs congolais, mais je crois que c'est l'ensemble de l'Afrique. Les Africains, de part, ils ont difficile parce que les données changent. La façon que les équipes étaient dirigées et continuent d'être dirigées aujourd'hui, en Afrique, c'est différent des Occidentaux. Dans ce sens que ce qui est vrai, c'est-à-dire que les Africains, ils sont très bons techniquement, physiquement aussi, mais la différence se fait au niveau mental. Je pense aujourd'hui, le football professionnel, aujourd'hui, une grande partie se joue sur le plan mental. Quand vous quittez l'Afrique, vous arrivez en Europe, là, de part, vous êtes perdu, vous êtes seul, il n'y a personne qui vous connaît. Il y a d'abord ce problème de climat, puisqu'en Afrique, il n'y a pas d'hiver, automne, ainsi de suite. Il fait chaud, ici, chez nous en Afrique. Et il y a ce problème des nourritures, il y a aussi l'environnement, la presse, la mentalité européenne qui est différente de l'Afrique. Donc ça demande, qu'on le veuille ou pas, pour qu'un Africain commence à s'adapter en Europe, ça demande un minimum de temps d'adaptation, et cela peut varier entre 6 mois, une année, pour ces questions dynamiques, mais les autres, des fois, mettent une année ou deux ans pour s'éclater. Donc, je pense que la différence, au départ, se fait à ce niveau-là. Les clubs sont bien structurés au niveau de l'Europe. Après l'entraînement, chacun rentre chez lui. On se retrouve aux entraînements, alors qu'ici, le président passe son temps à dorloter les athlètes, que le joueur ne retrouve pas de l'autre côté. Et c'est tout un ensemble, il faut d'abord s'adapter. Si vous êtes bien climaté à cela, la suite ne pose plus de problème. Voilà.
De 85 à 86, avec le Racing Paris, vous jouez 30 matchs et vous marquez 29 buts. Vous êtes alors le meilleur buteur du championnat français de deuxième division. Que faut-il pour atteindre ce niveau-là?
Non, le tout c'était par le travail et le sérieux, parce que ce n'est pas facile. Vous arrivez en Europe, s'il n'y a pas une discipline personnelle d'abord, ça pose problème. Et je pense que la clé de ma réussite, c'était d'abord à ce niveau-là, au niveau de la discipline personnelle. Et aussi de la volonté, parce que il y a ce qu'on appelle entraînement visible et invisible. Visible, c'est ce que les entraînements normaux avec le club, mais invisible, c'est après l'entraînement. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu dors tôt?
Qu'est-ce que tu bois?
Est-ce que tu fumes ou pas? C'est ce qu'on appelle entraînement invisible et ça joue sur une performance de l'athlète.
Ensuite, de 86 à 87, vous passez au RSC Anderlecht en Belgique où vous jouez 9 matchs et ne marquez qu'un seul but. À quoi attribuez-vous cette baisse de régime?
Non, ben écoute, je crois que c'était d'abord un problème personnel avec l'entraîneur. Le courant ne passait pas très bien à l'époque avec mon entraîneur, qui fut un très grand joueur, Harry Hahn.
Vous en avez eu souvent, les problèmes avec les entraîneurs?
Non. Bon, ben écoute, c'est des choses qui arrivent. Hein. Puis le deuxième aspect, je pense que vous avez plus d'informations en ce qui concerne la Belgique. Il y a ce problème francophone,
flamand,
et le club d'Anderlecht, la majorité, c'est une équipe flamande. Il y avait aussi ce problème de langue, ce qui fait qu'il y avait un contact difficile, en commençant par l'entraîneur. Je crois qu'à ce niveau-là, si vous n'avez pas un contact direct avec l'entraîneur et les coéquipiers, ça pose problème. C'était une des raisons qu'à la fin de la saison, j'avais estimé qu'il était temps de partir, et c'est comme ça que j'avais quitté Anderlecht. Voilà.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Jeune Kabongongoy, vous êtes ancien international congolais et footballeur professionnel dans FC Serein, RC Paris, RC Anderlecht, l'Olympique Lyonnais et au SC Bastia. Aujourd'hui, vous êtes député national. De 87 à 91, vous revenez à l'Olympique Lyonnais en France où vous jouerez 83 matchs et marquerez 50 buts au total. On ne peut parler de vous également sans parler du fameux pénalty manqué contre Badou Zaki lors du match Maroc-Zaïre en 85. Oui. Comment avez-vous vécu ce moment?
Ben écoutez, ça fait partir de bêtises, c'est le 1. Et je pense qu'à l'époque, avec notre équipe nationale, pour parler de ce penalty, fameuse rencontre, je crois qu'au départ, au niveau de l'équipe nationale, si vous étiez observateur, vous comprendrez que le penalty, ce n'était pas...
Votre fort.
Non, j'en ai pas botté les pénalties parce que j'avais ma conception de choses. Je me disais que le pénalty c'était pour des gens qui n'ont pas l'occasion de marquer. On leur laissait botter l'occasion pour s'exprimer. Puisque moi j'avais l'habitude de marquer, chaque rencontre je marquais un ou deux, trois buts, donc c'était ça ma vision de choses. Mais pour revenir à cette rencontre, puisque la question m'a toujours été posée à maintes reprises, j'en profite d'ailleurs pour répondre, et merci à vous d'avoir posé la question, j'aurais bien souligné une chose, puisque les conditions sur lesquelles on avait abordé cette rencontre, je crois qu'aujourd'hui si on me demande de le refaire, je dirais non. Ça montrait bien la détermination, la volonté qu'on avait pour aider notre pays. Nous Zaïre à l'époque, et aujourd'hui Congo, il y avait une volonté de patriotisme, puisque après avoir joué une rencontre le vendredi soir, si j'ai bonne mémoire, on avait joué à Rouen, contre le Havre, j'étais rentré chez moi à l'époque vers 1h du matin, surveiller le matin, prendre la route Paris-Bruxelles, 350 km. Arrivé à Paris, donc après une rencontre, on a besoin de récupérer, mais là, je continuais à fournir les efforts, et puis reprendre l'avion. Le soir, passer directement à Lubumbashi, de Bruxelles, Lubumbashi, pratiquement 10 heures de vol, dans des conditions, si nous étions à l'époque, les dirigeants prenaient le soin de nous mettre en feste, on allait peut-être avoir le temps de récupérer, en classe éco, tu te tapes 10 000 km, tu atterris à 10 heures du matin, et tu rejoues à 15 heures, et ben il fallait le faire.
Et ça pesait sur vous devant Badou Zaki?
Non, je crois qu'en dehors de ce penalty, j'étais le meilleur sur le terrain. C'est de 1. Et pour revenir à ce penalty, je pense peut-être que mon frère Motubile est en train de me suivre en ce moment, que je salue, puisque la personne qui était censée botter le penalty à l'époque, c'était Keita et Motubile. Donc c'est qui était là, c'était lui.
Mais on les avait vus.
Mais les deux, décliner l'offre. Je me retourne vers l'Ofombo, je dis tiens, va botter. Il n'y a personne qui voulait prendre le risque, et moi j'avais pris ce risque d'aller botter. On n'avait pas de réussite, parce que sur ce match, s'il y avait la réussite de notre côté, je crois que c'est un match qu'on allait gagner 2-3-0 facilement. Donc c'est pour dire que c'est des choses qui arrivent, et c'est ça la passion du football. Je l'avais fait en âme et conscience, et que, bon voilà, c'est le football que je ne regrette pas.
Vous le savez aussi, Eugène Kabongo, les Léopards d'âme de moins de 20 ans se sont qualifiés pour la 4e édition de la Coupe du Monde de Chili 2009 en battant les Sud-Africaines par 2-0 au stade de Martyr. Je vous invite à suivre la réaction de la capitaine Kuyangisa juste après le match. Elle était au micro de Nanambala. C'était là la capitaine Kuyangisa de Léopard d'âme de moins de 20 ans, juste après la qualification. Elle exprimait sa joie et demandait aussi que les moyens soient mis à leur disposition pour leur faciliter une bonne préparation. Jeune Kabongo, à ce jour, quelle est la santé du football congolais?
Ben écoutez, si on doit parler de la santé du football congolais, moi je dirais que notre, pour ne pas dire football, mais je souhaiterais qu'on parle de sport,
en général.
C'est vrai que le football c'est le sport roi, mais si je dois dire ce que je pense du sport congolais aujourd'hui, la réponse est simple, le sport congolais est malade.
Aujourd'hui, d'après le classement FIFA, pour parler du football, la RDC est passée de la 85e à la 82e place au monde et occupe la 17e place en Afrique. Que faut-il pour guérir ce football malade?
Je ne sais pas si vous vous réjouissez de ce classement. Moi, personnellement, ça me surprend. On parle de la RDC parmi les 10 premiers, je serais content. Mais 87e et 17e, si les Congolais sont contents, tant mieux. Mais moi, personnellement, je ne suis pas content parce que j'estime que nous avons la capacité de faire mieux. Nous pouvons aller plus loin dans les 10 premiers. Je pense aujourd'hui, ce qui tue le sport congolais en général, c'est le manque de politique, manque d'organisation. Le moyen, il y en a, mais ce qui est vrai, le sport dans toutes les fédérations est pris en otage par le gens qui dirigent. Voilà.
Pour revenir à vous, de 90 à 92, vous jouez au SC Bastia en France, mais pourquoi vous terminez votre carrière précocement?
Non, c'était suite à une blessure, puisque j'avais une fracture au niveau de l'œil droit, donc c'était une fracture du sinus et enfoncement du paroi intérieur, et ça m'avait pris 45 jours avant la reprise. Et puis après la reprise, j'avais toujours de maux de tête. J'ai été voir mon médecin, nous avons essayé de parler comme de responsable. Voilà, donc par ses dires, il a été clair et net en me disant que je parcourais les risques en reprenant un coup à la tête. Et je pense que là, les choses étaient claires et nettes. Je ne pouvais pas mettre ma santé en danger pour le football. Et il fallait bien prendre une décision et je crois que j'ai été courageux, la bonne, de prendre la décision et puis de rentrer au Congo.
Aujourd'hui, vous êtes député national pour le compte UMLC. Le football, qu'est-ce qui vous attire en politique?
Bon, écoutez, je crois que c'est une continuité, puisque à travers la pratique de sport, le football, nous étions des ambassadeurs, puisque quand on parlait de Jean Kabongo, de Mutubile qui est Kalo Kombo et consort, on faisait allusion à l'époque du Zaïre, donc nous étions des représentants valable de notre pays à l'étranger, rentrer au pays, faire la politique. Je sais que ça surprend beaucoup de gens, mais pour moi, c'est une continuité puisque je reste au service de la nation.
Nous avons contacté quelqu'un qui vous connaît. Je vous invite à suivre le témoignage qu'il fait de vous.
Je suis Monsieur Kabongo.
Est-ce que vous connaissez Monsieur Eugène Kabongo?
Oui, très bien, c'est un frère pour moi.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes connu?
Oh, ben, nous sommes connus il y a très très longtemps. D'abord, je devrais commencer par le saluer. Et notre amitié date tellement de longtemps que j'ai oublié comment ça a commencé.
Est-ce que vous avez une anecdote à raconter par rapport à vous deux?
Subitement comme ça ne me vient pas à l'esprit.
Il y en a tellement, on comprend.
Il y en a tellement. On a tellement fait des choses avec lui que... Là, vous faites à court d'idées même.
C'est pas un problème, le plus récent.
Le plus récent, on est parti manger les tabacs à Madrid.
Jeune Kabongo, c'était votre ami Aimé Bongo qui répondait aux questions de notre collègue Arlette Ouzoui qui faisait ça. Une réaction?
Non, pas Aimé, c'est un frère pour moi. C'est une personne qui occupe une place importante dans ma vie, puisqu'on se voit régulièrement, malgré qu'il vit en Europe, pratiquement tous les 3 mois, nous sommes ensemble. Là, d'ailleurs, je tiens à le saluer, c'est une bonne surprise. Ça me met de très bonnes humeurs. Je crois que c'est quelqu'un que nous devons féliciter, puisqu'il apporte beaucoup pour notre pays. Et je pense que là, comme il a dit, il était pris de vitesse. Il a oublié de parler de sport, puisque c'est lui qui est à la base de Léopard Espoir. Ce monsieur, c'est un chef d'entreprise au niveau de la France, au plus précisément à Lille. Et c'est grâce à sa contribution, c'est lui qui nous avait fait découvrir les Rio et toute la bande de jeunes que vous voyez aujourd'hui. C'est grâce à lui. Et il continue à apporter sa contribution pour le Congo. Donc c'est un monsieur que nous devons féliciter.
Buki malili, me buki sa nko ni na mo. Elso pondi mama, buki na yebisi. Ela linga ka elili na yo, ni baso na mo na yo. Elso pondi mama, buki na yebisi.
Pour terminer cette émission, Eugène Kabongo, un message à tous les jeunes sportifs congolais.
Écoutez, je crois que c'est beaucoup plus simple. Ce que je dirais à la jeunesse congolaise, c'est bien beau de faire la pratique de sport, parce qu'aujourd'hui, je crois que le rêve de tous les parents, c'est de laisser les enfants jouer au football. D'abord, ce qui est une très bonne chose pour la santé, l'épanouissement des enfants. Mais là, aujourd'hui, bien attirer l'attention de parents, il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on laisse les enfants faire la pratique de sport et sans associer les études. Je pense que les études sont importantes. Une carrière sportive, ça prend 10 ans. Et après la carrière, si les enfants n'ont pas un minimum de niveau, c'est difficile de continuer
et de faire
autre chose. Je suis partant pour sport et études, mais si le parent laisse les enfants faire la pratique de sport et sans des études, moi je dis non. Je crois qu'il y a un problème parce que l'éducation est plus importante que le sport.
Jeanne Kabongo Ngoy, merci d'être passé à Grand Terrain.
Merci à vous et merci à demain.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Eugène Kabongongoy, ancien international congolais et footballeur professionnel dans FC Serein, RC Paris, RSC Anderlecht, l'Olympique Lyonnais et OSC Bastia. Aujourd'hui, député national pour le compte UMLC. Merci à Alain Goy qui était à la réalisation et à la technique. À la présentation, Alain Hirou. Retrouvez cette émission sur le site Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent en Nkeba, qui est dans la province du Bas-Congo et partout dans le monde.